Bienvenue à chacun, à chacune. Bienvenue à vous les enfants pour ce culte. Il y a un programme tout spécial qui a été préparé pour vous tout à l'heure. J'espère que ça se passera bien. Vous viendrez me dire hein, si c'était cool, d'accord ? Chouette. Nous sommes rassemblés pour rendre un culte à Dieu, notre Père, qui nous a rachetés, qui nous a rassemblés, qui bâtit son Église sur la terre entière. Cordiale bienvenue à chacun, à chacune. J'aimerais prier. Cher Seigneur, nous nous présentons devant toi en vertu de ta grâce envers nous. Conscients que nous ne sommes ni parfaits ni arrivés, nous voulons marcher dans ta direction, recevoir ta grâce, recevoir ta bénédiction, recevoir ta pensée, recevoir aussi les forces dont nous avons besoin pour la suite de la route. Nous ne voulons pas que ce culte soit désincarné, il s'inscrit à la fin d'une semaine, au début d'une nouvelle semaine. Nous te prions que nous puissions te le rendre en esprit et en vérité, conscients de qui tu es et de qui nous sommes. Merci de nous rassembler, merci de nous permettre de nous retrouver sous la protection de nos autorités pour lesquelles nous te prions. Et nous pensons à nos frères et sœurs dans le monde qui n'ont pas ce privilège. Rends ta présence sensible auprès d'eux, auprès d'elles. Dans le nom de Jésus. Amen. Un culte quelque peu différent, puisque c'est aujourd'hui le dimanche de la FRAE. La FRAE, c'est la Fédération romande d'églises évangéliques, fédération d'églises à laquelle nous sommes rattachés, qui rassemble plus d'une cinquantaine d'églises évangéliques en Suisse romande. Et c'est un dimanche particulièrement consacré aujourd'hui à la FRAE que nous voulons célébrer également. Et pour ce faire, nous accueillons David Valdez. David est pasteur de l'église de La Rochette dans le canton de Neuchâtel. Et puis, il est également le responsable au sein de la FRAE du service Église et théologie. Je le laisserai se présenter mieux que je ne peux le faire. Tout à l'heure, c'est lui qui apportera la prédication. Bienvenue, David, et merci d'être là. Je vais laisser David Porter et l'équipe musicale, l'équipe de louanges, nous conduire maintenant dans un temps de louanges.
Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. C'est notre Dieu que nous voulons acclamer ce matin. C'est lui qui nous invite à venir devant lui. Il a décidé déjà d'être parmi nous parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Nous voulons l'acclamer ce matin.
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, les éclairs tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois, quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es.
Ton immense amour, c'est
C'est parce que Dieu est au-dessus de tout, qu'il est le Tout-Puissant, qu'on peut aussi lui faire confiance lorsque ça va mal, lorsque ça va moins bien. Il est Dieu, il est présent, il a promis d'être fidèle à ses promesses. Et je ne sais pas ce que vous avez retenu de ce qu'a dit le prédicateur dimanche dernier, mais c'est parce qu'il est Dieu, on peut aussi lui faire confiance avec nos soucis. Et on va chanter maintenant chaque heure, chaque jour, chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour.
Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferai-je sans toi? Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
Prions ensemble que chacun puisse se sentir libre pour prier, pour lever sa voix, à louer ce Dieu qui est tout-puissant, mais qui est aussi proche de nous, qui s'est manifesté aussi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions.
Pardon et ton esprit. C'est pourquoi
Jésus, tu es le seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Tu t'es fait petit, tu as obéi jusqu'à la mort et tu es mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu t'a placé très haut et t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu, le Père. Amen. Dieu nous a sauvés aussi pour annoncer à d'autres ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il est le Seigneur, il va être aussi le Seigneur de ceux qui ne le connaissent pas encore. Et nous allons chanter, homme de foi debout, chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse, criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur.
Homme de foi, debout chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Femme de vérité,
chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison dans le nom du roi d'amour.
Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous. Au travers du feu des grandes eaux, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos cœurs sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous. Viens l'Église aux ailes brisées, qu'à nouveau ton chant résonne. Pour ton Dieu qui règne au ciel, par ta grâce prends ton vent. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous. Tu es le seul Seigneur.
Amen. Je vous invite à prendre place.
Les enfants, le temps est venu pour vous de rejoindre vos salles, vos super moniteurs, monitrices des potes du dimanche. Ce matin, c'est qui les moniteurs et monitrices des potes du dimanche? Chantal et Johan. Ah oh là là, belle brochette. À tout à l'heure, hein. Je vais inviter David à bien vouloir s'approcher. Il va donc se présenter et puis nous dire quelques mots également de la Frey, et puis si tu en as la possibilité, de la HET Pro, dont tu présides le comité, c'est juste?
Voilà, c'est ça.
Waouh, t'as du temps de temps en temps pour toi?
Parfois. Parfois, ça m'arrive.
Bienvenue, David.
Voilà, merci beaucoup, en tout cas. Merci pour l'accueil. Quel privilège d'être dans le canton de Genève. C'est le bout du monde par rapport à Neuchâtel. Mais c'est quand même pas si loin que ça, puisque ça fait 1h15 de voiture. Enfin, voilà. En tout cas, peut-être que certains ne me connaissent pas. Donc, j'ai mes origines en Belgique, en Flandre, à Louvain, Leuven. J'ai grandi là-bas. Après, on a dû déménager pour des raisons linguistiques à Louvain-la-Neuve. Et j'ai grandi 10 ans, enfin j'ai fait 10 ans de plus, donc en fait en francophonie, en Wallonie. Et puis, bon, ben voilà, en fait le Seigneur appelle. Et puis, je me souviens que dans la paroisse réformée où j'ai grandi en tant que chrétien, le pasteur et le pasteur à la retraite qui fréquentaient la paroisse m'ont dit « Mais est-ce que tu ne considérerais pas un ministère pastoral ?» Et je me souviens qu'à l'époque, je leur ai dit ben, « Non, bien sûr !» Et puis, quelques années plus tard, je me souviens du président de notre paroisse qui est venu vers deux jeunes, donc un autre David et puis moi, et il nous a dit « Mais vous savez qu'un jour, vous serez dans le ministère !» Et puis on s'est regardé, parce qu'on était tous les deux à la fac de philo à l'époque, à l'université, et on s'était dit mais il déraille complètement notre président d'église. Et aujourd'hui, on rigole, parce qu'on est tous les deux dans le ministère, en Suisse en plus. Donc c'est fou quand même comme le Seigneur a de l'humour lorsqu'il appelle. Enfin voilà, donc je suis marié à Fiona, qui vient d'Irlande du Nord. Nous avons 4 enfants, voilà, hein. Ils sont partout, ces Nord-Irlandais. Ils ont tous quitté le pays, mais heureusement qu'ils sont ailleurs et qu'ils prêchent l'Évangile. Et c'est vrai, hein, c'est une joie. Donc, ça fait 22 ans que nous sommes mariés. Et puis, nous avons 4 enfants qui ont entre 4 et 18 ans. Très, 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 très dynamiques. Un qui est en fait déjà en train de prêcher à l'église, alors qu'il a 18 ans, mais il fait ça bien. Donc, je me réjouis. Et puis voilà, donc, on a exercé plusieurs ministères un peu partout. Donc, J'ai exercé un ministère en Angleterre durant 3 ans. Et puis après, on a fait 7 ans en Belgique. Et puis ça fait presque 15 ans que nous sommes ici en Suisse, avec un petit passage par le Jura bernois pour finir à Neuchâtel depuis 9 ans. Alors voilà, on se réjouit d'être dans le ministère. En fait, finalement, en fait, le Seigneur avait quand même dit juste, c'était bien de s'engager comme il l'avait demandé déjà à plusieurs reprises au fil des années. Voilà, donc quel privilège hein, d'être avec vous pour cette journée de la fraie. Et c'est vrai que la fraie, c'est vous. Hein. La fraie, c'est vous. La fraie, c'est cette fédération d'églises qui un jour est née d'un beau mariage entre toutes ces assemblées de frères larges qui s'étaient déjà réunis en union d'église en 1867, et puis d'un autre côté, ces libristes, c'était vraiment des libristes, parce que ce sont quelques églises indépendantes qui se sont mises ensemble en 1983, je pense, pour fonder cette fédération d'églises libres, et de là est née la fraie, il y a de cela 11 ans, et c'est vrai que la fraie, c'est vous, c'est nous. Hein, et la fraie, c'est une belle structure déjà, une structure avec une rencontre générale où tous les responsables se rassemblent 3 à 4 fois sur l'année. Et ensuite, on a ce fameux bureau exécutif qui se compose d'un certain nombre de personnes. Alors bon, mais j'ai pris ma structure avec moi parce que je me trompe toujours. Mais ce bureau exécutif se comporte d'un certain nombre de personnes qui sont responsables de services. Bon ben en fait administration et finances, services des activités à l'étranger, toutes des commissions qui essayent d'entourer et de prier pour ces missionnaires qui sont en Europe, qui sont en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Il y a ce service en fait des activités en Suisse avec tout ce travail parmi la jeunesse, parmi les enfants. Il y a tout ce qui est implantation d'églises. Il y a aussi tout ce qui est en fait communication, hein, le site internet, le journal Vivre, et puis ainsi de suite. Enfin voilà, ça c'est ce service des activités en Suisse. Et puis il y a ce service Église et théologie. Hein, ça peut paraître pompeux. Enfin moi je trouve que c'est un peu pompeux parfois, mais c'est pas grave. Et donc en fait dans ce service évidemment il y a la pastorale, tous ces pasteurs qui se retrouvent plusieurs fois sur l'année pour s'encourager dans leur ministère. Ensuite, il y a ce conseil consultatif qui se compose de pas mal de personnes au sein de la fraie qui vont justement réfléchir à comment l'affrée peut vraiment entrer dans cette vision qui est ensemble pour partager l'amour du Christ avec chacun. Et puis il y a d'autres choses, il y a la commission des ministères, bien sûr, qui rencontre les futurs pasteurs de la fédération. Il y a la commission théologique qui réfléchit à bien des questions éthiques, politiques et autres, aussi ecclésiologiques, bien sûr. Et puis, il y a la commission formation qui, là aussi, veille à ce que les personnes fréquentant nos communautés puissent bénéficier d'une formation appropriée afin qu'elles puissent servir dans l'Église. Voilà. C'est merveilleux, non, la frère, hein. Et puis, en fait, de l'autre côté, on a encore tout ce service, où on fait des œuvres proches, qui comprend Prasoleil, Bethel, et puis toutes ces autres œuvres qui travaillent en partenariat avec la frère, dont les GBU, puisqu'on est à Genève, il y a les GBU, il y a d'autres œuvres. Et c'est vrai que la frère, eh bien, c'est vous, c'est nous, et cette frère, il faut la soutenir. Il faut prier pour elle. Parce que la frère est là pour nous. Toute cette fédération qui est là, elle est là pour nous, afin que toutes nos communautés, afin que nous tous, nous soyons en mesure de pleinement rayonner de l'Évangile dans nos régions, hein. Et donc pour cela, eh bien, la frère est là pour nous accompagner, pour nous équiper, pour entrer dans ce genre de ministère. Puis, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, n'est-ce pas? La frère, c'est une grande famille. Et moi, je me sens à la maison, où que j'aille dans les églises de la frère, même aussi dans des églises, qui ne sont pas de la frère, mais quand je suis ici dans une église de la frère, je me dis, mais je suis à la maison. J'ai donc l'impression d'être à La Rochette, finalement. Hein, quoiqu'il n'y a pas la même tête, mais j'ai l'impression que nous sommes quand même là, comme à Neuchâtel. Donc la frère est une grande famille, et je vous dis en fait tout simplement ceci, la frère est là pour que nous puissions ensemble travailler, prier et réfléchir afin qu'ensemble nous puissions partager l'amour du Christ avec chacun dans nos régions respectives. Donc c'est pour ça que je vous invite à prier pour la frère, c'est pour ça que je vous invite à prendre part à tout ce que la frère veut organiser pour que nous soyons ces hommes et ces femmes qui rayonnent de l'Évangile, ici comme ailleurs. Alors, ouais, je ne vais pas vous rappeler toutes les lignes de force de la frère, vous les trouverez sur les sites internet adéquats, mais il y a de la réflexion au sein de la frère, hein, pour que nous puissions être ces témoins de l'Évangile. Et puis la frère est en partenariat, comme je l'ai dit, avec pas mal d'organisations, d'associations, des œuvres missionnaires, dont justement aussi la HET Pro, la Haute École de Théologie. Voilà un nom nouveau, une Haute École de Théologie qui a été inaugurée le 9 septembre dernier. HET Pro pour protestante, hein, ancrée dans le riche héritage de la Réforme. Professante, engagée résolument à concilier réflexion intellectuelle et foi personnelle, professionnalisante, rendant les diplômés prêts pour agir là où le Seigneur les envoie. Et c'est vrai que dans le cadre de ces formations que nous offrons à Saint-Légier, sur le campus du Forum Emmaüs, voilà le nom de la nouvelle association. On a voulu faire un lien avec le passé, parce que quand même, cet institut en fait biblique et missionnaire a accompli un travail extraordinaire au fil des décennies, quoi, je veux dire. Et là, on voit cette HET Pro qui est vraiment le cœur de ce ministère du Forum Emmaüs. Et vraiment, toute la formation qui propose une formation en études bibliques et théologiques, une formation de leadership en église, une formation plutôt pour nous préparer à la mission, eh bien, cette formation est centrée sur trois axes clés. Il y a cet axe que nous appelons le savoir-connaissance. Accumuler un certain nombre de connaissances sur l'écriture, sur la théologie, afin de mieux être en mesure, justement, hein, d'être ces hommes et sa femme qui comprennent l'Écriture et qui le transmettent. Deuxièmement, un savoir un savoir faire, oui, comment faire pour exercer le ministère là où le Christ nous envoie. Et puis troisièmement, le savoir être. Voilà, bon, ben, au fil de cette formation, nous voulons que le caractère de l'étudiant soit vraiment travaillé par le Christ et mieux préparé justement aussi au service. Alors c'est vrai, donc cette HET Pro, priez pour elle et nous prions aussi pour toutes les communautés, afin que justement au sein de ces communautés, eh bien, elles puissent discerner les personnes que le Seigneur prépare pour exercer un ministère en fait pour la suite. Donc on prie vraiment pour que toutes ces communautés puissent avoir le juste discernement pour ces personnes. Et puis d'un autre côté, eh bien, priez pour tous ces professeurs que nous avons engagés, qui viennent d'horizons assez différents, une professeure qui vient des milieux de réveil, deux autres professeurs récemment nommés qui viennent des milieux réformés, et encore, bien sûr, d'autres professeurs incontournables qui viennent de la Frée. Donc oui, une très très belle équipe, avec une belle vision, cette vision qui dit « Unis par l'Évangile, formons la personne, construisons l'Église, servons la société ». Voilà la vision. Mais pour que nous puissions pleinement faire en sorte que cette vision devienne réalité, eh bien, il nous faut aussi faire en sorte que, voilà, que cette haute école puisse être soutenue par tous les moyens et que l'œuvre de Dieu puisse se poursuivre aussi au travers de cette haute école de théologie. Voilà, donc j'ai été bref ce matin, mais priez pour la Frée, notre famille d'Église, priez pour cette haute école de théologie, priez déjà pour les étudiants qui s'y trouvent, et bien qu'ils puissent justement être travaillés en profondeur et être mieux disposés à répondre à l'appel du Christ. Voilà. Je te laisse la parole.
Et nous lisons ensemble le texte qui servira de base à la prédication de David en Philippiens 1, les versets 12 à 26. Philippiens 1, 12 à 26. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redoublent-ils d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe après tout. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé, et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends, et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ.
Nous voulons prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin, mais déjà te remercier pour tout ce qui a été vécu. Seigneur, tu es ce Dieu vivant, tu es ce Dieu avec lequel nous pouvons avoir une relation personnelle, intime. Et Seigneur, je te loue pour ta grâce envers nous. Et je te loue ce matin pour ta présence. Oh Seigneur, tu es présent. Oh Seigneur, tu en fais déjà parler. Et tu veux encore certainement parler par la suite, Seigneur, ici, à notre, à cette communauté, à chacun d'entre nous. Alors merci, Seigneur, de parler maintenant par ces paroles qui viennent d'être lues. Je veux te le prier en ton nom. Amen. Nous sommes libres. Voilà ce que, il y a en fait, déjà quelques années, certaines personnes ont commencé de crier dans les villes du Caire, dans les villes de Tripoli, dans les villes de Tunis et dans d'autres contrées encore. Voilà ces hommes et ces femmes dans les rues qui étaient enfin heureux de pouvoir être libres. Et pourtant, quelques années plus tard, beaucoup reconnaissent qu'elles ne sont pas libres, qu'elles sont encore, d'une certaine manière, bien prisonnières d'un certain nombre de réalités. Oui, elles ne sont pas pleinement libres, même s'il y a déjà eu un certain nombre de changements dans leur contrée. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, je pense que nous pouvons dire, n'est-ce pas ? Nous pouvons le dire haut et fort, eh bien, nous sommes libres. Nous sommes libres parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus le Christ. Le Christ qui a pris ce chemin de l'humilité. Le Christ qui a choisi de donner sa vie afin que nous ayons la vie à jamais. Et par le moyen de la foi en lui, eh bien, nous avons cette possibilité justement de goûter à cette liberté que seul le Christ peut donner. Oui, nous sommes libres. Voilà ce que nous pouvons proclamer haut et fort encore aujourd'hui, quelles que soient les circonstances parfois compliquées que nous pourrions vivre. Eh bien, grâce à l'intervention de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons dire haut et fort que Christ nous a acquis cette liberté par sa mort, par sa résurrection. Ici, Paul montre, dès le début justement de cet épître, à quel point il est libre. Il s'adresse à une jeune communauté qu'il a lui-même créée, une communauté qui est donc courageuse, une communauté qui a été en mesure justement de témoigner de l'évangile malgré la persécution qui donc émerge dans cette région de Philippe. Souvenez-vous de cette rencontre particulière que Paul et Silas ont connue avec Lydie, cette marchande de pourpre qui donna sa vie à Dieu alors qu'il n'y avait pas encore de synagogue. Dieu parle. Jésus a changé la vie de cette femme, et au travers de cette femme, eh bien, d'autres vies vont être complètement transformées. Et de là, cette communauté émerge, témoigne de l'Évangile. Et dès le début de cette lettre, même si Paul se trouve en prison, plus que probablement proche de la ville de Rome, eh bien, nous constatons que cet homme ne se lamente pas de la situation dans laquelle il se trouve, mais tout au contraire, il est celui qui loue le Seigneur, qui encourage tous ces Philippiens en les remerciant pour cette collaboration, en les rassurant, en leur disant mais sachez que celui qui a commencé son œuvre en vous la poursuivra jusqu'à son accomplissement pour le jour de Jésus-Christ. Ouais, il les remercie, il les encourage, il prie pour eux, afin que l'amour du Christ puisse continuer d'abonder en eux. Et lorsque nous lisons déjà le début de ses paroles aux Philippiens, eh bien, nous constatons, n'est-ce pas, à quel point cet homme est libre, parce qu'il loue le Seigneur, il encourage ses gens, et il intercède pour eux. Ouais, pour que l'amour abonde, pour qu'ils soient, ces hommes et ces femmes, ces témoins de l'Évangile en parole et en acte. Et dès le verset 12, eh bien, on voit à quel point cet homme est libre. Parce qu'il dit ceci. Il dit, je souhaite que vous le sachiez, mes frères, et bien sûr mes sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. Et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. Paul est un homme libre. Il dit, sachez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et que par le biais de son témoignage, eh bien, ces chrétiens qui sont un peu plus loin, à quelques kilomètres de là probablement, eh bien, là aussi, ils vont user d'audace suite au témoignage de Paul pour qu'ils soient là aussi ces témoins audacieux dans la ville de Rome. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul, qui rêvait à ce point de témoigner de l'Évangile dans la ville de Rome en tant qu'homme libre. Là maintenant, il est en prison, pas loin de là, bien sûr. Et il est dans le prétoire. Il est là près de cette garde prétorienne qui se composait d'environ 9000 personnes. Là aussi, il logeait bien sûr certaines personnalités importantes de l'Empire romain. Et c'est justement là qu'il sera en mesure de témoigner de l'Évangile et de toucher même ces personnalités importantes, semble-t-il. Imaginez ce qui doit se passer, n'est-ce pas, là en prison. Peut-être que certains, en fait, des gardes qui sont là près de lui, lui disent « Mais Paul, mais pourquoi es-tu en prison ?» Et certainement, eh bien, Paul s'est dit « Je suis en prison à cause de l'Évangile. » Oui, mais alors, mais qu'est-ce que l'Évangile pour qu'on te jette ainsi dans cette cellule ? Et puis imaginez aussi ces chrétiens qui sont en ville, qui sont interpellés par des proches, par des amis, et puis qui leur disent « Mais comment se fait-il que votre pasteur est en prison ?» Eh bien, il est en prison à cause de l'Évangile. Oui, mais alors, qu'est-ce que l'Évangile ? Donc, on voit un apôtre et puis d'autres chrétiens qui vont saisir l'occasion pour témoigner de l'Évangile auprès de toutes ces personnes que le Seigneur place sur leur chemin. J'aimerais dire une chose ce matin. Rien, ni personne, ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu dans ce monde. Rien ni personne. Voilà ce que l'on voit ici dans ce passage. Et je pense toujours à des amis, ils sont iraniens. J'ai en fait travaillé avec le fils il y a quelques années, lorsque j'étais à Londres. Et ils m'ont raconté leur histoire. Le père s'appelle Sam Yegnazar. Il est iranien, il est pasteur pentecôtiste, pasteur des Assemblées de Dieu à Téhéran à l'époque. C'est les années 70. Le régime se durcit dans le pays avec le changement de chef d'État. Et il commence à être menacé de mort. Les gens de sa propre communauté lui disent « Mais écoute, pars, parce qu'on ne veut pas que tu disparaisses. » Et en fait, durant tout un temps, il a essayé de résister à cette demande de la part de ses propres paroissiens. Mais un jour, conscient en fait des enjeux, il choisit de partir avec sa famille en fait au Liban, où il va travailler la société biblique. Et là, durant quelques années, il œuvre, Mais très vite, il est retrouvé par le Hezbollah. Et là aussi, encore une fois, la société biblique lui dit, écoute, on peut te trouver un travail sur Londres, alors pars avec ta famille. Ils sont partis. Ils sont arrivés à Londres et le Seigneur leur a mis sur le cœur de fonder une église iranienne. Parce qu'à Londres, les Iraniens, ils viennent pour étudier durant 3 mois, parfois 6 mois, parfois un peu plus longtemps. Et très vite, l'église va grandir et ces Iraniens vont rentrer chez eux, bien sûr, chrétiens. Mais la route ne s'est pas arrêtée là. Un jour, le Seigneur a fait comprendre à cet homme, Sam, qu'il serait quand même bien qu'il puisse fonder un institut de formation pour Iraniens qui voudraient servir le Seigneur dans leur église, dans leur pays. Et très vite, les choses se sont mises en place. Très vite, ces jeunes Iraniens chrétiens sont venus se former pour 3 mois, parce qu'ils n'avaient droit qu'à un visa de 3 mois. 3 mois de formation intensive pour repartir dans leur pays. Certains ont été tués, en fait, malheureusement. D'autres sont toujours là. Et l'Église grandit. En fait, depuis tous ces temps, l'Église continue de grandir. Donc, d'un côté, l'ennemi a dû se réjouir, n'est-ce pas, de se dire, eh bien, j'ai pu me débarrasser de ce Sam et de sa famille. Comme ça, enfin, je pourrais freiner la croissance de cette Église. Et aujourd'hui, l'Église est bien plus grande qu'il y a de cela quelques décennies. Rien, ni personne, ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu dans ce monde. Voilà une chose qui est importante ce matin. Et cela devrait nous encourager, n'est-ce pas, à nous dire, eh bien, nous aussi, soyons ces hommes et ces femmes audacieux, prêt à tout pour que l'Évangile soit proclamé dans notre localité, dans notre région, ailleurs, quelles que soient les circonstances que nous pourrions connaître, quel que soit le régime politique sous lequel nous sommes soumis. Soyons prêts. À tous les niveaux, n'est-ce pas? Je ne vous demande pas d'être lourd, comme on dit parfois dans certains milieux, de revenir toujours avec la même sauce à chaque minute auprès des personnes que l'on côtoie, mais d'être prêt et audacieux et créatif pour que nous puissions venir avec ce message de l'amour de Christ auprès de ces gens que le Christ place sur notre route. C'est Francis Schaeffer, n'est-ce pas, qui en fait disait, si vous voulez témoigner de l'Évangile, eh bien, une personne, eh bien, prenez le temps de l'écouter durant 95% du temps d'échange. Et prenez ces 5 petits pourcents qui vous restent pour dire la chose, pour être avec cette personne, et puis qu'elle puisse percevoir, justement, et comprendre l'Évangile. Je pense encore à un autre exemple. À La Rochette, l'année passée, une femme chinoise commence à venir à l'église. En fait, elle était fiancée à quelqu'un qui fréquentait la communauté, aussi un Chinois. Et son futur mari lui dit, « Mais écoute, on va se marier, tu dois venir à l'église. » La dame, bien soumise, elle vient à l'église. Et donc, elle vient à quelques cultes, elle découvre, hein, parce qu'elle n'était jamais entrée dans une église de sa vie. Et quelques semaines plus tard, après le culte, elle va au bureau d'information en bas, juste en dessous de la chapelle, et elle va parler avec la personne qui est responsable du bureau d'information ce jour-là, et elle lui dit, « Je voudrais devenir chrétienne, qu'est-ce que je dois faire ?» Donc c'est beau, n'est-ce pas? Parfois les gens viennent naturellement à nous, il suffit de vivre l'Évangile et de le proclamer simplement comme on est toujours censé le faire pour que l'Esprit touche les cœurs des gens, hein, et que ces gens viennent à Jésus. Ou je pense encore à cet autre exemple, parce que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une communauté. Et je pense à cette jeune femme qui a été emprisonnée durant 13 ans pour avoir tué son fils de 6 ans. Et un jour, je ne sais pas comment, il y a 3 ans de cela, elle me téléphone, elle me dit « Je suis en prison, j'aimerais bien connaître la foi et puis l'Église. » Alors j'ai été la visiter en prison, elle m'a raconté toute sa vie, Elle ne pouvait sortir qu'une fois par mois, donc à l'époque, elle avait déjà purgé pas mal d'années. Et puis, voilà, elle a commencé à cheminer, elle a commencé à rencontrer des chrétiens tous les dimanches et à toutes les rencontres que nous organisions. Bien sûr, elle entendait l'évangile, mais sans qu'on mette bien sûr la pression. Et un jour, elle a vraiment donné sa vie à Dieu. Mais d'abord parce qu'elle avait vu l'évangile vécu. Elle a fait le lien entre le vécu et le message. Et on l'a baptisé il y a de cela maintenant 2 ans. Donc voilà, libre. Puissions-nous saisir cette liberté que le Christ nous donne d'être ces témoins de l'évangile. Ici, on voit un Paul qui est vraiment libre du découragement. Il aurait pu être complètement au fond, avec les circonstances en fait qu'il connaissait. Mais non, il est libre. Libre du découragement, libre de dire l'évangile là où le Christ le place. Deuxième chose, nous voyons ici un Paul qui semble être libre, libre de l'esprit critique. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût de dispute. Mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Mais qu'importe, de toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Les tensions sont là, autant à l'extérieur de l'environnement de l'Église qu'à l'intérieur. On peut le voir, n'est-ce pas, dans la suite de la lettre aux Philippiens, dans le 2e chapitre, il y a là un encouragement à l'unité. Paul prêche un message d'unité qui doit se vivre au travers de l'humilité, au travers de la suivance de l'attitude du Christ. Mais il y a des tensions. Même au chapitre 4, n'est-ce pas, vous voyez ces deux femmes qui ne se supportent pas, elles sont dans le ministère avec Paul, mais ça ne va pas. Donc on sent toutes ces tensions qui sont là. Mais il y a de la rivalité. Je pense que certains prédicateurs qui connaissent Paul sont probablement un peu jaloux de Paul, se permettent même peut-être de se dire entre eux, « Ah, c'est Paul, c'est un prédicateur qui est beaucoup trop radical. La preuve, bon, il est en prison, la preuve. Puis c'est pas comme ça qu'il faut prêcher. Parce que comment un chrétien qui termine en prison, bon, c'est pas un témoignage, n'est-ce pas ? » Donc certainement, il y a de cela entre Paul et ces gens qui prêchent quand même l'évangile. Il n'est pas la question de fausse doctrine. Paul n'est pas en train d'accuser ses autres prédicateurs d'annoncer une autre doctrine, parce que sinon il l'aurait dit, comme il le dit dans sa lettre aux Galates, par exemple. Non, non, là, ils prêchent fidèlement l'évangile, ces gens-là, mais dans un esprit de jalousie, dans un esprit de rivalité. Et quel défi, n'est-ce pas ? De vivre une vie de communauté sans qu'il y ait de jalousie. Qu'est-ce qu'on aimerait bien parfois être à la place de l'autre ? L'autre qui fait ça dans l'église. Qu'est-ce qu'on aimerait bien parfois ? Mais voilà, quel défi de vivre l'église. Je me souviens de cette époque où je travaillais pour les GBU en Belgique et on vivait une croissance exceptionnelle. On avait rarement vu ça dans l'histoire du GBU. Et puis c'est pas à cause de moi, loin de là, quoi. Mais voilà. Le mouvement est passé de 5 étudiants à 300 étudiants en l'espace de quelques mois, finalement. Et ça a duré quelques années, jusqu'au jour où des missionnaires venant de loin, des États-Unis, viennent en Belgique. Ils n'ont pas pris contact avec nous, bien sûr, mais j'ai appris, parce que la Belgique est petite, on se connaît tous dans les milieux, comme un peu en Suisse, bien sûr, en Suisse romande, et j'apprends qu'ils sont là, donc moi, je vais vers eux, je vais prendre contact avec eux, et je leur dis, ah, je me réjouis, on va pouvoir collaborer et toucher tous les campus universitaires de la Belgique francophone, extraordinaire. Et puis ils m'ont dit, ouais, c'est bien. Jusqu'au jour, parce que quand même, bon, c'est pas que je les harcelais, mais je voulais collaborer pour que d'autres personnes puissent encore être touchées par l'Évangile. Et j'étais les visiter plusieurs fois, et on a causé de choses et d'autres, et puis un jour, ils m'ont dit, David, on ne peut pas collaborer. C'est pas possible. En fait, on ne prêche pas le même Évangile. Alors, ça, je pouvais encore accepter, même si je n'étais pas d'accord. Mais l'autre chose qui a encore été plus dure, finalement, c'est qu'ils ont pris des leaders de tous nos groupes pour fonder leur propre mouvement, finalement. Et c'est ça qui a été le plus dur. Je me dis, mais zut, Seigneur, tu m'envoies des gens en plus, enfin, tu nous envoies dans notre beau pays plat des gens en plus, et là, ils font séparation. Alors, ce sont, à mon avis, les années les plus difficiles que j'ai connues dans le ministère, sur les 24 ans passés maintenant. Mais un jour, le Seigneur m'a remis ce verset, cette parole de Paul, qui dit, qu'importe, prétexte ou vérité, le principal, c'est que l'Évangile soit proclamé. Alors, je me souviens que là, je les ai retrouvés. Je lui ai dit, alors, on se voit une fois par mois pour prier. Moi, je prie pour que votre mouvement grandisse le plus possible. Et puis, vous ferez de même, j'espère. Et puis, c'est comme ça qu'on a pu cheminer ensemble, tant bien que mal, pour que l'Évangile soit proclamé. Mais il y avait de la rivalité. Ils devaient vendre leurs produits. Ils devaient garder leur soutien financier, bien sûr, en fait, des États-Unis, bien sûr. Et toute cette rivalité a fait quand même que l'Église en Belgique a beaucoup souffert. Mais finalement, le principal, c'est que l'Évangile soit proclamé. Et c'est vrai que j'ai été libéré de cet esprit critique à leur égard, libéré de cet esprit de rivalité à leur égard, mais cela ne s'est pas fait tout de suite, bien sûr. Très vite, troisième chose et dernière chose. Donc on voit un Paul libre du découragement et ainsi libre de dire l'Évangile, quelles que soient les circonstances. Libre de cet esprit critique qui touche et qui habite des gens de cette communauté chrétienne de Philippe et de sa région. Et puis troisièmement, libre de la mort. Voilà ce qu'on voit dans le passage. À partir du verset 18 que je me permets de relire quand même. Verset 19. Je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ce que j'attends avec impatience, ce que j'espère. Je n'aurai honte de rien. Avec une entière assurance, maintenant, comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi la vie c'est le Christ, et la mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermé dans ce dilemme, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et j'en suis persuadé, je le sais, je demeurerai auprès de vous tous, encore et encore, en vue de vos progrès et de votre joie dans la foi, pour que vous soyez toujours plus fiers de Jésus-Christ, de Jésus-Christ en moi, grâce à mon retour auprès de vous. Paul parle d'abord de délivrance, n'est-ce pas, dans ce passage. Il attend avec impatience cette délivrance. Je ne pense pas qu'il parle de la délivrance de la prison. Je pense qu'il parle de cette délivrance future lorsque le Christ vient et qu'il pourra pleinement, avec d'autres, expérimenter la présence du Dieu trois fois saint dans les cieux nouveaux, sur la terre nouvelle. Voilà ce qu'il attend. Mais ici, Paul dit une chose forte, et je ne sais pas si nous réalisons ce qu'il dit. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Est-ce que vous pouvez dire cela aujourd'hui ? Christ est ma vie, il est toute ma vie. Souvenez-vous de Paul, sur ce chemin de Damas. Cet homme qui a été complètement transformé et qui est devenu l'une de ces personnes clés de la première Église. Oui, pour lui, Christ était toute sa vie. Et la mort est un gain, bien sûr, la mort est un gain. Quoique vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, bien sûr, que la mort est un gain. D'être dans la présence du Christ est bien plus grand que de rester ici-bas, même si, bien sûr, je peux comprendre tous les attachements que nous avons les uns avec les autres. Mais Christ est ma vie. Alors pouvez-vous dire que Christ est votre vie, mais pas seulement le dire, mais donc démontrer que Christ est toute votre vie, que le Christ est le cœur de toutes vos préoccupations, jour après jour. Qu'est-ce qui nous empêche encore aujourd'hui? Que Christ soit toute notre vie. Ah, je n'ai pas besoin de vous donner des exemples, n'est-ce pas, de ces choses qui nous freinent et qui nous empêchent de garder le Christ au centre. Mais Paul est prêt. S'il faut passer par le martyr, il passera par le martyr. Tout le monde n'est pas appelé au martyr, pour que vous sachiez quand même. Mais certains, malheureusement, connaissent le martyr et sont prêts à aller jusqu'au bout. Libre, même libre de la mort. Il nous faut l'esprit, n'est-ce pas, pour que nous soyons ainsi libres de la mort. Ce matin, soyons ces hommes et ces femmes prêts à ce que le Christ reste au cœur de toutes nos préoccupations. Je pense toujours à mon collègue burundais, je vais souvent en Afrique pour enseigner. Et là, j'ai un collègue, lors de la guerre, dans les années 90, qui aurait pu en fait quitter le pays et en fait venir en Europe pour poursuivre des études. Et il dit non, moi je reste avec le peuple. J'ai été appelé berger au sein de ce peuple, j'y reste. Même si je dois mourir, je reste. Alors voilà, ce matin, soyons ces hommes et ces femmes qui puissent saisir cette liberté que le Christ nous donne par sa mort à la croix, par sa résurrection. Soyons ces hommes et ces femmes qui saisissent cette liberté pour que nous puissions pleinement témoigner de lui. Soyons ces hommes et ces femmes qui sont prêts à saisir cette liberté que le Christ nous donne afin que nous puissions même jusqu'à pardonner celui qui nous a profondément blessés. Soyons ces hommes et ces femmes qui sont prêts à s'engager jusqu'au bout pour que le Christ rayonne là où il nous place. Prions ensemble. Merci, Jésus, pour ta parole ce matin, pour ces paroles que tu as inspirées à l'apôtre Paul, pour ce Paul que tu as complètement transformé. Tu as fait de lui un homme nouveau, une personne clé pour cette première Église, une personne clé aussi encore pour nous aujourd'hui, avec tous ces textes que nous pouvons lire, méditer, relire encore et toujours. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ces exemples. Merci, Seigneur, pour cette liberté que tu nous octroies par pure grâce, par le moyen de la foi en toi. Ô Seigneur, donne-nous de la joie à pleinement profiter de cette liberté que tu nous donnes et donne-nous de la joie à rayonner de ton amour là où tu nous places. Oui, nous voulons te le prier en ton nom. Amen.
Nous
nous allons bientôt prendre la scène ensemble. Nous allons réfléchir à ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a souffert pour nous. Le scandale de la croix, c'est que Dieu est devenu homme, s'est laissé être crucifié, mort terrible, pour justement nous donner le salut, pour pouvoir être lavé de nos péchés, pardonné. Et Graham Kendrick, un compositeur, a réfléchi à ceci lorsqu'il a écrit ce chant « Homme crucifié ». J'ai mis tout mon espoir dans un homme crucifié. J'ai lâché mon orgueil pour partager son sort et la gloire à venir qui jaillit de sa mort. Cet homme crucifié est Jésus aussi, ressuscité aujourd'hui, notre Seigneur, notre Sauveur. Ça se peut que vous ne connaissez pas ce chant, c'est pas grave. Je propose qu'on reste assis, mais pas debout. On va le chanter une fois pour vous, jusqu'à la fin de la première strophe, et puis on va le reprendre. La mélodie est assez simple, qui se répète plusieurs fois.
J'ai mis tout mon espoir dans un homme crucifié, dans ses mains transpercées et son corps lacéré. J'ai lâché mon orgueil pour partager son sort et la gloire à venir qui jaillit de sa mort. J'ai laissé ma confiance dans les sages et les fiers, pour la faiblesse de Dieu, un si fragile mystère. Et je crois sans rougir au scandale de la croix, qui pardonne et rend pur celui qui le reçoit par la foi. Pour lui seul je vivrai, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié.
Chanter avec nous, sinon vous pouvez l'écouter un petit peu et après un certain moment, à mon avis, vous le trouverez plus facile de l'entamer avec nous.
J'ai mis tout mon espoir dans un homme crucifié, dans ses mains transpercées et son corps lacéré. J'ai lâché mon orgueil pour partager son sort et la gloire à venir qui jaillit de sa mort. J'ai laissé ma confiance dans les sages et les fiers, pour la faiblesse de Dieu, un si fragile mystère. Et je crois sans rougir au scandale de la croix, qui pardonne et rend pur celui qui le reçoit par la foi. Pour lui seul je vivrai, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Je sais qu'il a changé les épines et le fouet en autel de pardon et sa grâce a coulé. Quand le péché abonde, sa bonté le désarme, comme la reine innommable devant son amour ineffable. Le voici comme un agneau blessé, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. A frappé l'innocent, l'aiguillon de la mort a perdu son poison. Tout genou fléchira et tout œil le verra, la sa sagesse du Dieu au cœur brisé et folie ici-bas. Et j'y trouve ma joie et ma paix, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Au printemps, comme une graine en hiver qui attend la saison. Du jardin des tombeaux, elle brille à jamais. De son cœur fleurit le paradis pour l'éternité. Il reviendra pour régner. La nature espère dans un homme crucifié. Quand viendra le jugement, je n'ai pas d'autre plan. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Comme le brigand repentant, je n'ai pas d'autre plan. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié.
J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié et ressuscité et qui donne son esprit et qui, aujourd'hui encore, nous invite à la table de la libération. C'est le repas de Pâques, c'est la sortie de l'esclavage, de nous-mêmes peut-être, mais en tout cas, c'est l'ouverture à une espérance. Prions le Seigneur. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, Seigneur, mais dis un mot et je serai guéri. Je ne suis pas digne, Seigneur, d'être invité à ta table de libération, mais tu l'as dit que tu as désiré vivement prendre ce repas de libération avec nous, alors nous nous souvenons que nous sommes les disciples d'un maître crucifié qui a donné sa vie, qui nous pardonne, nous appelle par son nom, et nous te bénissons. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, ainsi que tous ceux qui reconnaissent en Jésus la raison de leur vie, le Christ, le Sauveur, viennent et partagent ce repas. Amen. J'invite trois personnes, frères ou sœurs, à faire un geste simple de servir dans les différents rangs et de m'aider à la distribution des éléments du repas, s'il vous plaît. Avant de lire le texte d'institution des évangiles, je vous rappelle que nous aurons des plateaux, et puisqu'il y a aussi de nouveau, le vin est dans les pourtours et le jus de raisin est d'une manière plus sombre au milieu. Vous pourrez trouver, il y aura aussi une coupe qui va être servie tout à l'heure par le pasteur Philippe Anchaud. Le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut trahi, prit du pain et le rompit. Puis il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Nous te bénissons et te remercions, Père, parce que tu as réconcilié l'humanité brisée en un corps. De la même manière, à la fin du repas, le Seigneur Jésus prit la coupe de vin, il rendit grâce au Seigneur et dit, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la réconciliation versé pour tous. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et te remercions. Père, tu as réconcilié l'humanité et l'univers dans le sang d'une alliance nouvelle. Amen. Que les personnes qui peuvent dire « Pour moi aussi, le Christ est ma vie », qui, bien que pécheurs et en chemin, veulent bénéficier de cette alliance nouvelle et la rafraîchir, le renouveler, qu'ils participent à ce repas de communion avec le ressuscité et les uns avec les autres. Rien ni personne ne peut empêcher l'extension du règne du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, ni les épreuves, ni les angoisses. Le Christ est ma vie, et même la mort me serait un gain. Prions le Seigneur et rendons-lui gloire. Pour les forces et les réjouissances annoncées dans ce repas, dans ton corps et dans ton sang, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Pour la force et le réconfort que tu nous as donné, nous te louons de tout cœur. Pour la joie d'anticipation également qui représente ce repas, nous te remercions parce que tu nous as rachetés à grand prix. Nous avons de la valeur à tes yeux. Tu nous aimes d'un profond amour et nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Pour la vision de ton royaume qui vient, dans nos situations, mais aussi dans l'avenir, dans une terre où la justice habite et que tu as inaugurée, Seigneur Jésus, nous te remercions. En communion avec nos frères et nos sœurs malades de cette région, mais aussi avec tous les rachetés de cette région et bien ailleurs, dans le monde entier et auprès de toi, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Amen.
Nous aurons maintenant un temps d'offrande. Rendons à Dieu ce qu'il nous donne avec tellement de bonté et de fidélité. Peut-être si trois personnes veulent bien passer parmi nous, je fais simplement circuler mes paniers. Avant de prier, j'aimerais simplement vous lire quelques lignes que Blaise m'a transmises ce matin. Un tout grand merci pour vos prières qui montent vers notre Père Céleste pour Marthe et moi. Merci aussi pour vos intentions de visite. Malheureusement, je suis obligé de suspendre les visites au vu de l'état de Marthe qui s'est aggravé sensiblement cette nuit. Notre fils Hervé est auprès d'elle et une infirmière va arriver dans la matinée. Merci pour votre compréhension dans une profonde amitié fraternelle, Blaise. Et j'aimerais simplement prier en notre nom à tous et toutes. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir te redonner un petit peu de tout ce que tu offres à notre joie. Te prions de faire fructifier ces quelques dons et nous te prions pour Rajen et Kleran dans leur travail de trésorerie. Te prions pour Marthe, Seigneur, en te demandant de rendre ta présence sensible auprès d'elle, s'il te plaît. Merci de conduire pour les soins et puis de renouveler, d'encourager, de porter Blaise et toute la famille. Prions pour ceux et celles qui sont malades en te demandant, s'il te plaît, d'accorder le renouvellement des forces et, si tu le veux, la guérison. Nous pensons à Werner, nous pensons à Christophe et nous te remettons ces bien-aimés, Seigneur, en te demandant d'accorder les forces nécessaires pour la suite de la route. Dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen.
Voilà les annonces du jour. Je cède d'abord la parole à Claude Bécher.
Merci, Michel. Deux, trois choses, d'un truc un peu pastoral. Écoutez, il y a le 1er juin, c'est un vendredi, et c'est la 9e fois que Mérin fait ethnopoli. Ethno, c'est les ethnies, poli, ça veut dire beaucoup. Hein. Eh bien, le 1er juin, ce sera à nous d'accueillir, comme il y en aura aussi de l'accueil au CEPOM, mais 40 autres postes ici, où les enfants de 7P, P comme quoi ? Primaire. Vont aux différents postes répartis dans Mérin. Cette année, nous voulons choisir comme thème Martin Luther King, pasteur baptiste qui est mort au mois d'avril, il y a 50 ans maintenant. Donc, nous aurons des panneaux, mais j'aurai besoin d'aide d'un homme et d'une femme qui sont d'accord de potasser un peu la chose, le rendre accessible pour les enfants pour le 1er juin. Donc, s'il y a des volontaires, même qui se disent « je ne connais pas assez Martin Luther King », eh bien, ils peuvent venir me trouver. Deuxième chose, dans 3 semaines, c'est Pentecôte. Si, si. Dans 3 semaines, c'est Pentecôte. J'aurai la prédication et j'aurai besoin que ceux qui ne sont pas en vacances ailleurs, donc qui sont ici, me ramènent quelque chose qui fonctionne avec le principe d'une graine, soit un fruit, soit un légume, soit des céréaux, peu importe, des céréales. J'aurai une petite table et on le met là-dessus. Donc la table sera garnie de ce qu'on apporte, ça va ? Ce n'est pas une raison pour laquelle vous ne veniez pas. Hein ? Pentecôte, dans 3 semaines... Et ça va servir aussi à la prédication. La dernière chose, le 3 juin, ça c'est assez loin en avant, hein, mais je le dis simplement, pour les personnes qui se sont joints à la communauté dans les 3 dernières années et les personnes qui s'intéressent, nous aurons le dimanche après un petit repas après le culte, le 3 juin, une explication de ce qui est la foi de cette église, deuxièmement de comment fonctionne cette église au niveau des prises de décision, et puis voilà. On a pensé que ça pourrait intéresser les uns ou les autres qui voudraient en devenir membres et mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Je passe la parole aux annonces importantes.
Je sais pas si elles sont plus importantes, mais elles sont plus proches. Ce mardi, le 4e volet de l'atelier biblique avec David Porter, loué dans la joie, mais que fait-on des psaumes de lamentation ? Et jeudi 3 mai, le conseil de notre église rencontre les trois autres conseils des églises frais, on parle de la frais, hein, de la régionale de Genève. C'est à l'Espérance au Grand Lancy. 5 et 8 mai, rencontre de formation, de préparation pour le baptême. Vous pouvez vous adresser à Claude Bécher, à Philippe Anchaud, si cette démarche est dans votre réflexion. Et dimanche 6 mai, un culte particulier avec présentation d'enfants, d'abord pendant le culte, et ensuite un repas canadien, et après le repas canadien, où vous êtes tous invités au repas canadien, et après le repas canadien, des ateliers pour tous, présentés par...
Donc c'est des ateliers que le groupe de jeunes organise. On vous attend avec impatience et on espère que vous serez nombreux. On va faire plusieurs ateliers, on n'a pas encore tout préparé, on va préparer mercredi aussi. S'il fait beau, il y aura des activités dehors et vous pouvez amener vos enfants. On espère avoir des familles, parce qu'il y aura des ateliers faits exprès pour les enfants et les familles. Voilà. Merci.
Une chouette occasion de connaître le groupe de jeunes et de vivre quelque chose ensemble. Samedi 26 mai, le mariage d'Alexia Franck Hanau et Sylvain Wenger, vous êtes tous cordialement invités. C'est à 13h30 à l'église de Compezières. Et peut-être vous avez envie d'aider pour l'apéritif. Eh bien, vous pouvez vous adresser à Rebecca Perrin. Oui, elle est là. Agite la main, Rebecca. Voilà. Qui organise la collation. Merci d'avance. Dernière annonce, la garderie La Framboise, cette garderie qu'on héberge dans nos locaux, qui est une association indépendante de l'Église, qui est une association qui est subventionnée par l'État et qui, par conséquent, a comme y a toujours l'enjeu de comment est-ce qu'on articule notre vie d'Église et le fonctionnement de la garderie, comment est-ce que ça se goupille entre les deux entités, si vous voulez. Nous recherchons des membres pour être membres de l'association de manière à garder un contrôle quelque part sur cette association qui est indépendante mais avec laquelle on veut garder du lien. Voilà, on cherche des membres pour être membres de l'association et on cherche en particulier un trésorier pour s'occuper des comptes, des salaires, des écolages et des assurances. Vous pouvez contacter, vous voyez, toute une liste, Catherine Harry-Meyer, Anne-Claude Semon, Claude Parnigoni ou Lucie Mchana. Bon dimanche, pour ma part. Il y a maintenant, vous avez vu sur vos sièges le flyer de l'offrande de printemps de la Frée. Ces trois volets, on va les passer juste avant que David nous apporte la bénédiction, peut-être. Hein, ouais. Ces trois volets, ces trois possibilités d'offrande sont présentées par les personnes qui en sont les porteurs.
Cette année, dans le cadre de l'offrande de printemps, nous aimerions vous présenter trois projets qui incarnent ces cinq engagements. Alors, le premier projet pour lequel nous aimerions solliciter votre générosité, c'est celui des sites internet de la Frère. Actuellement, nous en avons un seul, lafrée.ch, dans lequel se retrouve.
donneront de leur force à ces pionniers afin que ces projets puissent exister. Et nous avons besoin de vous tous, chrétiens de Suisse romande, chrétiens de la Fraie, pour que vous libériez ceux qui ont cet esprit pionnier, cet esprit d'implanteur, pour qu'ils puissent partir faire ce que Dieu leur a mis à cœur et leur demande, en se sentant libérés, envoyés par vous. Priez pour eux. Libérez ceux que Dieu vous a placés dans vos églises et qui ont cet appel. Tout cela a un coût, évidemment. Nous avons besoin de vous pour que le royaume de Dieu continue de progresser et de grandir en Suisse romande et que ce chiffre de 75%, au moins de non atteint par l'évangile pertinent, diminue le plus rapidement possible.
J'ai la joie de vous présenter le Camp Passion. Le Camp Passion, c'est un camp de formation théologique pour les jeunes de 15 à 30 ans qui ont soif de Dieu. Ce camp a lieu chaque année pendant le week-end de l'Ascension et se déroulera dans les magnifiques locaux du Forum Emmaüs à Saint-Légier. Cette formation se déroule sur 3 ans. La première année, lors du Camp Passion Fondement, c'est un survol de toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, en explorant les thèmes comme la création, chute, rédemption, salut. Pour le deuxième niveau, nous allons plutôt mettre l'accent sur comment Dieu se révèle, au travers de la Bible, au travers de Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit. Et pour la troisième année, le Camp Passion va mettre l'accent sur la notion théologique du « déjà pas encore ». Je suis déjà pardonné, mais je ne suis pas encore parfait. Et on va explorer un petit peu toutes ces nuances pour voir quelle est la part des choses dans chacun de ces thèmes. L'idéal, c'est donc de faire le Camp Passion à la suite sur 3 ans. Mais si tu as 21 ans ou plus, ou si tu as déjà une formation théologique équivalente, tu as la possibilité de commencer directement en 2e ou en 3e. Le Camp Passion est donc une occasion extraordinaire de rejoindre et de travailler avec les 20-35 ans pour développer leurs compétences théologiques et de préparer la nouvelle génération de leaders. Info et inscription sur compassion.ch.
Voilà, j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Ces projets sont novateurs et vont vraiment apporter un plus au royaume de Dieu en Suisse romande, et ceci même bien au-delà de la Fraie. Sans l'implication de la Fraie, et donc sans la contribution et le soutien des églises qu'il y a derrière, je crois qu'on peut honnêtement dire que ces projets ne seraient pas possibles. Alors pour les pérenniser, et peut-être pour en créer de nouveaux, mais ceci sans charger davantage les églises, nous faisons appel à vous aujourd'hui dans cette offrande de printemps. Seriez-vous motivé à contribuer financièrement à l'un de ces projets? Par 10, 50 ou 200 francs, vous pourriez nous montrer un réel signe d'encouragement et de soutien par un moyen tout simple pour soutenir la croissance du royaume de Dieu en Suisse romande. Toutes les informations utiles sont dans le papillon que vous avez à disposition. Alors d'avance, un immense merci pour votre générosité et à tout bientôt.
Je vous invite à vous lever. Nous allons prier et clôturer ce temps ensemble. Seigneur, je veux te remercier déjà pour cette communauté solidaire où ton amour règne. Merci Seigneur qu'elle poursuive sur cette route, tout comme l'apôtre Paul, disposé à rester pour accompagner, encourager les chrétiens de Philippe. Et bien que cette communauté puisse continuer à poursuivre sur cette voie et à témoigner de ton amour, ici comme ailleurs. Réjouissons-nous, réjouissez-vous et tendez à l'épanouissement. Encouragez-vous et soyez bien d'accord, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de la paix sera avec vous. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soient avec vous tous. Amen. Amen. Et bon dimanche à chacun et chacune.